Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 11 mai, une chasse à l'homme dans les Cévennes. Un homme qui a tué ce matin deux de ses collègues dans une scierie au Plantier dans le Gard est toujours en fuite. 30 ans de prison ferme requis contre Nordal Lelandais pour le meurtre d'Arthur Noyer. C'est la peine maximale. Lelandais est dangereux, a dit l'avocate générale devant les assises de Savoie. Dans RTL Midi aussi, le principal suspect du meurtre du brigadier Éric Masson à Avignon, formellement identifié par un collègue de la victime. Avec son complice présumé, ils vont être présentés au juge cet après-midi. On accélère encore et toujours sur la vaccination, c'est finalement avec un jour d'avance que les 18-49 ans pourront bénéficier des doses restantes. Concrètement, il y aura 20 000 doses par jour pour 23 millions de Français potentiellement concernés. Un voile déchire La République en marche. Le délégué général du parti menace de retirer l'investiture à une liste où figurait une candidate voilée pour les départementales dans l'Hérault. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Il est tombé plus d'un mois de pluie hier à Lyon. Alors ça se calme, mais ça reste quand même humide.
Oui, parce que le gros de la perturbation s'évacue par l'est entre l'Alsace et les Alpes du Nord avec une limite pluie neige à 1900 mètres. Et à l'arrière, entre les frontières du Nord, la région PACA et la Corse, ça reste perturbé avec des averses orageuses cet après-midi. En allant vers l'ouest, il y aura un peu moins d'averses, un peu plus d'éclaircies, sauf entre la Bretagne et la Vendée où les pluies se réactivent avec un coup de tonnerre possible. Et en fait, c'est sur le golfe du Lion que le ciel est plus lumineux, sec, mais avec beaucoup de vent et un vent qui se généralise. Le tout sous des températures fraîches comprises entre 12 et 20 degrés.
La question du jour, faut-il supprimer le rappel à la loi pour être plus ferme, comme le proposait Gérald Darmanin ce matin sur RTL, le ministre de l'Intérieur. Vous êtes 77% à dire oui. Il y a 16% de non. On attend vos arguments au 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle, et nous en parlerons. Et au-delà de ce rappel à la loi, les mesures de durcissement de peine contre les agresseurs des forces de l'ordre ont été annoncées. Et évidemment, nous attendons vos réactions. Une candidate La République En Marche voilée sur une affiche de campagne lors d'élections départementales. Il s'agit d'une candidate remplaçante dans le canton de Montpellier et ça pourra vous faire réagir. Est-ce que vous êtes choqué par cette affiche? Et puis Matignon a présenté les conditions du déconfinement et des réouvertures et notamment ses jauges, 50% en terrasse, ses jauges en extérieur, là où pourtant la contamination n'existe pas, où elle est quasiment nulle. Eh bien vous pourrez là aussi nous donner votre avis.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et pour commencer donc cette chasse à l'homme dans le Gard, les habitants du petit village des Plantiers dans les Cévennes près d'Alès sont priés de rester chez eux. Un homme a abattu deux personnes ce matin dans une scierie dans laquelle il travaille et il est activement recherché, Alice Moreno.
Oui, les habitants du secteur doivent se calfeutrer. Les enfants ont été retirés des écoles. Un homme armé, dangereux, est en fuite. Il vient de commettre un double homicide vers 9h30 ce matin. Cet employé d'une scierie du petit village du Plantier a tué par balle son patron et un de ses collègues avant de disparaître dans la forêt des Cévennes. Les gendarmes ont déployé un important dispositif de recherche et de sécurisation. Un hélicoptère survole la zone. Des brigades cynophiles et des équipages du GIGN sont sur place. Des moyens à la hauteur de la dangerosité du meurtrier, selon le procureur de la République d'Alès. L'individu en fuite est licencié dans un club de tir. Ses motivations demeurent pour l'instant inconnues, mais la piste terroriste est écarté.
Alice Moreno. 30 ans de prison ferme requis contre Nordal Lelandais pour le meurtre d'Arthur Noyer. C'était le réquisitoire ce matin devant les assises de Savoie. Et pour l'avocate générale, Anne Le Hénaff, la culpabilité de l'accusé ne fait aucun doute.
Mais sa démonstration a été aussi claire et pédagogique qu'implacable et affûtée. Une enquête, c'est une scène de crime et le corps d'une victime. Dans cette affaire, nous n'avons ni l'un ni l'autre. La vérité, seul Lelandais la connaît. Et il a constamment changé de version. Alors l'avocate générale donne la sienne. Le seul mobile possible, c'est la recherche d'une relation sexuelle avec Arthur Noyer. Lelandais est accro. Il a tenté toute la journée de voir un amant, puis une maîtresse. J'ai cherché et recherché un autre mobile pour ce meurtre. Je n'en ai pas trouvé. Ce qui s'est passé dans la voiture, on n'en sait en fait rien. Même le lieu du meurtre est incertain. Même la cause de la mort. Lelandais parle de coups violents. Mais il s'est tellement appliqué à cacher le corps qu'on a retrouvé d'Arthur qu'un morceau de crâne et qu'une partie de squelette. Il a caché le corps, donc coupé ses portables, ce qui signe pour l'avocate générale la volonté de tuer, le meurtre. Et c'est crucial, explique-t-elle au juré, car la version de Lelandais, les coups ayant donné la mort sans intention de la donner, c'est 15 ans de prison max. Face à un Arthur ivre, plus petit, plus léger, ça ne peut être qu'une victime à terre. hier que le Landais s'est employé à achever. C'est un homme dangereux. Elle réclame donc la peine maximale, 30 ans. Face à elle, l'accusé n'a pas réagi.
Récit Anne Le Hénaff. Les plaidoiries de la défense commencent à 14h. Le verdict est attendu en principe ce soir au palais de justice de Chambéry. La France est en train de sortir durablement de la crise sanitaire. C'est le message positif porté par Jean Castex dans le journal Le Parisien. Et l'exécutif accélère sur la vaccination. C'est finalement avec un jour d'avance que les 18-49 ans pourront bénéficier des doses restantes. Odile Pouget, concrètement, c'est 20 000 rendez-vous possibles par jour.
Oui, 20 000 places à décrocher en ligne en cochant la case personne de plus de 18 ans pour un rendez-vous disponible d'ici demain soir. Donc il s'agit bien d'un créneau pour le jour même ou le lendemain. Injection proposée par une cinquantaine de centres pour l'instant sur les 1800 au total, majoritairement dans les grandes villes. 20 000 rendez-vous chaque jour pour potentiellement 23 millions de Français. Le site de Doctolib, principale plateforme de rendez-vous, est opérationnel depuis ce matin et croule déjà sous les demandes. Stanislas Nioc-Château, son cofondateur.
Il y avait des disponibilités près de Valenciennes ce matin, il y avait des disponibilités à Sartrouville, dans le sud-ouest. En fait, ça part tellement vite. La réalité, c'est qu'il va y avoir beaucoup de déceptions, mais aussi beaucoup de satisfaction, hein, puisque ça permet qu'aucun rendez-vous ne soit pas pris.
Alors, matin, midi, soir, pas de créneau meilleur qu'un autre pour se connecter. Les centres proposent leur place à n'importe quel moment. Les disponibilités s'affichent en temps réel. Et il y aura sans doute plus de créneaux, plus de centres au fil des semaines, selon évidemment l'arrivage des vaccins.
Bon, et puis le cap des 20 millions de personnes vaccinées sera bien atteint à la mi-mai.
Oui, sans doute dimanche au mieux, au pire lundi 17 mai. Deux petits jours de plus que les prévisions. Doctolib a fait ses calculs. 18,1 millions de Français qui ont déjà reçu une première dose, plus 1,3 million de rendez-vous prévus pour la semaine en cours. On arrive à 19,4 millions et avec 4 à 500 000 rendez-vous par jour actuellement, l'objectif sera bien atteint. Il reste évidemment beaucoup à faire. Ainsi, près de 6 millions de Français entre 60 et 75 ans ne sont pas encore vaccinés.
Odile Pouget, quant au calendrier de réouverture annoncé par Jean Castex, il fait des mécontents. Les professionnels du mariage déplorent de ne pouvoir redémarrer réellement leurs activités avant le mois de juillet à cause du couvre-feu. Un voyage en absurdité, disent-ils. Question absurdité. On s'interroge aussi sur la réouverture des remontées mécaniques le 19 mai, alors qu'il n'y aura plus de neige. Dans un instant, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, veut supprimer le rappel à la loi.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Des peines plus sévères contre ceux qui agresseront les forces de l'ordre. Jean Castex l'a annoncé hier soir après avoir reçu les syndicats, avec notamment des peines de sûreté portées à 30 ans pour les personnes condamnées à la perpétuité pour un crime commis contre un policier ou un gendarme, la limitation des réductions de peine, des peines plus fortes pour les refus d'obtempérer. Et ce matin, sur RTL, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a évoqué la suppression du rappel à la loi.
Sur 800 000 décisions de justice par an, 800 000 décisions de justice, il y en a à peu près 300 000, un petit peu moins, qui sont des rappels à la loi. C'est-à-dire que le policier et le gendarme font une enquête, il y a eu un outrage par exemple contre un policier qui l'a traité de connard, je n'en sais rien, excusez-moi pour votre antenne. Bon bah il fait l'enquête, puis à la fin il appelle le procureur de la République, et le procureur de la République lui dit bon bah rappel à la loi. Donc vous êtes policier, vous êtes fait insulter.
Mais on découvre pas que le rappel à la loi ça sert à rien.
Bah non, puisque ça existe depuis 99.
Moi je ça sert à rien.
J'étais un militant pour le supprimer, je suis très heureux d'avoir été entendu. On supprime ces 300 000 rappels à la loi qui ne servent en effet à rien chaque année.
Et on en fait quoi à la place ?
Il y aura de vraies infractions qui seront vraiment condamnées, si j'ose dire, par les procureurs de la République et par les juges.
Gérald Darmanin a interrogé ce matin par Alba Ventura sur RTL. Alors, faut-il vraiment supprimer ce rappel à la loi, comme le souhaite le ministre ? C'est la question du jour que l'on vous pose sur RTL.fr et sur laquelle vous allez revenir avec les auditeurs, Pascal Praud.
Oui, et je pense pas qu'il faille supprimer le rappel à la loi pour les petites choses. Par exemple, si deux personnes s'insultent dans la rue, que l'une porte plainte et qu'il y a un témoin, on n'est pas le cas là, avec un policier, vous n'allez pas mettre en prison ou pourquoi pas faire une amende très forte à cette personne. Un rappel à la loi peut suffire. Le problème n'est pas là. Le problème de la justice aujourd'hui, c'est qu'elle est débordée, elle manque de moyens. Donc, effectivement, beaucoup d'affaires qui mériteraient un procès se transforment en rappel à la loi parce que les prétoires sont encombrés. Mais ce n'est pas le problème du rappel à la loi. C'est l'application qu'on en fait. Donc il faut garder ce rappel à la loi, je le précise, pour les toutes petites infractions qui sont commises au quotidien et qui ne méritent pas davantage.
Eh bien, on va voir ce qu'on en pense du côté de la justice. Nous sommes en ligne avec Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes. Bonjour.
Bonjour madame.
D'abord, expliquez-nous concrètement en quoi ça consiste ce rappel à la loi. C'est une mesure alternative ?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est une mesure. Bon, c'est du tirage d'oreille, c'est remonter de bretelles. Chacun y mettra le contenu qu'il veut. C'est le policier, le gendarme qui rappelle au contrevenant que ce qu'il a fait contrevient à la loi et le met en garde à ne pas réitérer.
Mais alors, c'est pour des petites choses pas très graves.
C'est pour des petites choses pas très graves. Lorsque M. Darmanin dit que ça s'applique aux outrages, on en trouvera sur un exemple, mais enfin, la plupart des outrages sont poursuivis devant le tribunal correctionnel naturellement.
Mmh. Au fond, c'est une chance laissée à une personne mise en cause ?
Oui, c'est un rappel. Alors, c'est éducatif. Hein. Voilà, le gendarme tire les oreilles au contrevenant en espérant qu'il n'y reviendra pas. Bon, ça s'est fait depuis toujours. Ça s'appelle rappel à la loi depuis 1999. Donc, les procureurs appliquent la loi telle que prévue par le législateur. On peut difficilement le leur reprocher.
Mais est-ce que vous diriez, comme Gérald Darmanin, que ça ne marche pas ?
Moi, ce que je crois qu'il faut pas ni polémiquer ni opposer les uns aux autres. Hein. Je crois qu'il y a un mouvement qui, Monsieur Pro disait tout à l'heure que la justice, elle n'a pas la capacité de passer tout le monde devant le tribunal correctionnel. Il a parfaitement raison. Les capacités en France, c'est à peu près 650 000 jugements par an. Mais on a, nous, 1,3 million de décisions à prendre dans les affaires poursuivables. Vous voyez le delta. Ouais. Donc, on a inventé les alternatives aux poursuites, mais ça peut être donc le rappel à la loi qui est prévu par le législateur, mais aussi des stages, ça peut être des médiations, ça peut être tout un tas de dispositifs qui ont effectivement un contenu. Quand vous devez payer 200 euros pour aller faire un stage pour de sécurité routière, bon, mais c'est une sanction effective, hein, c'est concret. Là, le problème du rappel à loi, c'est que c'est pas très concret. Mais c'est vrai que pour des toutes petites infractions, ça peut être, j'ai la peur du gendarme, ça fonctionne encore pour certains nombre de personnes. Donc, si le législateur décide de le supprimer, bon, on va s'adapter naturellement. Mais c'est vrai qu'il faut davantage donner de contenu à la réponse pénale pour qu'elle soit le plus pédagogique possible.
Oui. Et si on le supprime, on le remplace par quoi, tout simplement ? Par une amende forfaitaire ? Par quoi ?
Alors, l'amende forfaitaire délictuelle, on est en train de la développer en matière d'usage de stup. On en a fait, au jour d'aujourd'hui, un peu moins de 67 000. On l'a fait pour les délits routiers. On en est un peu moins de 200 000 depuis fin 2018 où on l'a lancé. Donc ça, c'est une bonne réponse pour des délits simples, pour éviter d'encombrer l'appareil judiciaire. Mais c'est pas la réponse à tout non plus. Hein. C'est vrai que si on veut avoir une politique de sécurité cohérente, il faut avoir des policiers dans la rue pour interpeller. Il faut avoir aussi de la police judiciaire pour faire les enquêtes, un appareil judiciaire bien proportionné pour pouvoir condamner les gens, et aussi un outil pénitentiaire pour pouvoir contrôler ceux qui sont dehors et incarcérer ceux qui doivent l'être.
Et on en revient une fois de plus au manque de moyens dont vous parliez au début de notre discussion. Merci beaucoup Philippe Astruc d'avoir été l'invité de ce journal. Je rappelle que vous êtes procureur de la République de Rennes. Merci, bonne journée.
Bonne journée madame, au revoir.
Au revoir. Un hommage national sera rendu au brigadier Éric Masson par Jean Castex cet après-midi à Avignon. Du côté de l'enquête, le principal suspect qui est toujours en garde à vue clame son innocence, mais il a été formellement identifié par un collègue de la victime, Étienne Baudu.
Oui, identifié par le collègue d'Éric Masson, tous les deux intervenaient sur le point de vente. Il a reconnu le tueur présumé sur un tapissage de photos. Alors bien entendu, les enquêteurs cherchent à bétonner le dossier, comme ils disent. Ils ont travaillé sur la téléphonie, car c'est étonnant, mais les deux suspects ne se sont pas débarrassés de leur téléphone portable. Et donc, les policiers cherchent à savoir si, dans leurs éventuels échanges téléphoniques, ils ont pu évoquer les faits. Par ailleurs, la géolocalisation des smartphones va-t-elle leur permettre de savoir où se trouvait le principal suspect au moment des faits ? Chez sa maman, comme il l'affirme, ou bien sur le point de deal. Les enquêteurs ont été aussi mis sur la piste des deux jeunes de 19 et 20 ans par des indics dans le milieu, voire même peut-être par des dealers eux-mêmes. Ils cherchent à savoir quelle complicité les aurait peut-être aidés à se cacher pendant les trois jours. Enfin, preuve que l'enquête avance rapidement, selon un proche du dossier, les gardes à vue vont être levés cet après-midi vers 16h avant leur fin légale. Les policiers ont donc sans doute suffisamment de faits étayés pour que les deux suspects soient présentés dans la foulée au juge d'instruction.
Étienne Baudieu, Avignon pour RTL. Dans un instant, la question du voile déchire la République en marche.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Une candidate voilée sur une affiche de La République En Marche. La majorité s'embrase. Il s'agit d'une suppléante qui se présente pour la campagne des départementales dans l'Hérault. Stanislas Guérini, le délégué général du parti, menace de retirer l'investiture à toute la liste. Il défend une certaine idée de la laïcité, Jacques Serret. Une idée qui ne fait pas l'unanimité chez LREM.
Oui, clairement. Depuis hier soir, à la publication de cette affiche de campagne, de nombreux parlementaires s'émeuvent de la position du patron de leur parti, comme Caroline Janvier, députée En Marche du Loiret.
Je considère qu'il faut respecter la loi, et donc rien dans la loi n'interdit le port du voile pour les élections. Une candidate voilée, non, ça ne me dérange pas. Je ne soutiens pas le port du voile en tant que tel, mais je considère que dans ces cas-là, il faut qu'on interdise, par exemple, les médailles de baptême.
Une majorité divisée sur ce sujet. Effectivement, la loi ne l'interdit pas, mais la direction du parti en fait une question de principe. Pour Roland Lescure, porte-parole d'En Marche, le voile de Sarah Zemahi n'est pas acceptable sur une affiche de campagne.
À partir du moment où vous affichez un signe ostentatoire religieux sur du matériel électoral, ça devient un acte politique. Et nous ne souhaitons pas que la religion entre en conflit avec le politique ou s'affiche de manière politique. Et donc, on a été très clair, hein, si ces candidats changent leur matériel électoral tout en vivant comme ils le souhaitent dans leur vie au quotidien, ils conserveront le soutien de la majorité présidentielle. Et si ce n'est pas le cas, le soutien leur sera retiré.
Mahfoud Ben Ali, à la tête de cette liste, a d'ores et déjà fait savoir qu'avec ou sans l'étiquette En Marche, ils iront jusqu'au bout.
Jacques Serret, aucun train ne circule ce matin entre Lyon et Saint-Étienne. Les pluies diluviennes de ces dernières 24 heures ont entraîné un glissement de terrain à Rive de Gière dans la Loire. Une caténaire s'est affaissée, il n'y a plus d'alimentation électrique. Des autocars de substitution ont été mis en place entre les deux villes. N'oubliez pas vos impôts, vous devez avoir fait votre déclaration de revenus sur papier avant le 20 mai ou en ligne entre le 26 mai et le 8 juin. À cette occasion, RTL et le quotidien Aujourd'hui en France vous aident avec les nouveautés puisque le Covid s'invite dans notre déclaration cette année. Anaïs Bouissou, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça change si on a télétravailler.
Alors pour votre télétravail en 2020, votre employeur a pu vous verser une indemnité. Sachez qu'elle est non imposable dans la limite de 550 € touchés sur un an. Alors il existe une autre solution. Si vous avez gardé vos justificatifs d'achat pour vos frais d'ordinateur, d'internet, les ramettes de papier, c'est de tout déduire achat par achat pour le télétravail. On appelle ça déclarer au réel. Ça nécessite un petit calcul pour vérifier que c'est bien rentable. Écoutez Laurent Belloudis de l'Ordre des experts comptables.
Le calcul n'est pas nécessairement gagnant et il n'est pas impossible qu'en télétravail, en fait, ça coûte un peu moins cher pour le salarié que lorsqu'on est obligé de se déplacer pour aller travailler. Avant de faire une option pour les frais réels, la première chose à faire, c'est de savoir si ces frais qu'on peut identifier sont supérieurs à 10% de votre revenu salarié.
Et pour ceux qui ont subi du chômage partiel, Anaïs ?
Là aussi, vous le déclarez. C'est dans la catégorie traitement et salaire. Ça vaut pour les salariés d'entreprise au chômage partiel, comme pour les salariés qui ont un contrat chez un particulier employeur, les nounous, les jardiniers. Souvent, votre déclaration sera déjà pré-remplie, comme ce sera le cas pour 12 millions de foyers cette année. Mais vérifiez bien que toutes les sommes correspondent. Et je rajoute les salariés qui ont subi un chômage ou même un arrêt maladie avec des indemnités journalières. Ça a touché énormément de monde avec le Covid. Là aussi, c'est important, cela doit apparaître sur votre déclaration d'impôt.
Merci. Et pour toutes vos questions, vous avez le numéro Allo Impôt de l'Ordre des experts comptables au 0800 065 432 0800 065 432. À l'étranger, c'est toujours l'escalade en Israël. Le mouvement islamiste Hamas et Israël ont échangé des centaines de tirs la nuit dernière. 20 Palestiniens ont été tués à Gaza, parmi lesquels deux commandants du djihad islamique. L'armée a frappé 130 cibles militaires en réponse à des tirs de roquettes sur Jérusalem-Est. Les Nations Unies se disent profondément inquiets de cette montée de la violence.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons dans le Finistère, à Locmélar, près de Brest, chez un sauveur d'abeilles. Ses ruches avaient été détruites, alors il a inventé un piège à frelons asiatiques, Nicolas Bobby.
Apiculteur, ancien militaire, Dany Jaffray est le pire ennemi du frelon asiatique. Son redoutable piège, avec son grillage en forme d'entonnoir qui ressemble à un casier à homard et sans aucune pitié pour les tueuses d'abeilles, appâtées par l'odeur de la cire broyée et du bon miel.
Alors, le piège à frelon, ce sont deux caisses superposées. L'un qui va recevoir l'appât qui se trouve en dessous, la cage de capture, un autre bac donc, qui va recevoir deux cônes calibrés au centième de millimètre. Donc, les frelons ne pouvant consommer cet appât meurt très vite à l'intérieur de la cage de capture.
Le procédé est efficace. Attiré par les effluves de ce restaurant de luxe, les abeilles et les petits insectes pénètrent aussi dans le piège, mais ils ne se referment pas sur eux.
La reine du frelon commun ne peut pas rentrer, tout simplement parce que c'est calibré vraiment à la taille du frelon asiatique, à la reine du frelon asiatique.
Primé au concours Lépine en 2018, fabriqué dans le Finistère par 6 salariés, le bac de capture se vend comme des petits pains en France, mais également dans 5 pays européens.
Et c'est prometteur. Merci Nicolas. Pascal, vous prenez la parole dans 5 minutes avec les auditeurs. Au menu.
J'ai écouté avec intérêt ce que votre sujet sur cette candidate à la République En Marche voilée sur une affiche de campagne et, oui. et le témoignage il y a quelques secondes. Et je pensais à l'affiche de François Mitterrand en 1981, La Force Tranquille. Mmh. Il me semble qu'il y avait un clocher derrière, oui. une église derrière. Oui. Et que certains y voyaient un symbole forcément religieux. Alors, en tout cas, vous pourrez parler...
C'était pas plutôt un village, vous êtes sûr?
C'est pour ça que j'ai dit il me semble. J'ai l'impression qu'il y avait un clocher...
il y avait un clocher, mais pour symboliser un village.
C'est... un clocher,
mais c'est intéressant votre interprétation en tout cas.
Mais j'ai pensé immédiatement à cela parce que c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui et qu'on ne se posait pas forcément il y a 30 ou 40 ans. Évidemment, on reviendra sur les mesures de durcissement des peines contre les agresseurs des forces de l'ordre qui ont été annoncées par Jean Castex. Faut-il arrêter le rappel à la loi notamment? Et puis, moi, j'ai vraiment envie de parler de cette jauge en terrasse. On a quand même inventé la jauge en extérieur, là où la contamination n'existe pas, où elle est quasiment nulle. Donc ça peut faire peur aux restaurateurs qui vont ouvrir le 19 mai et on en parle dans une seconde.
À tout de suite. La météo, Peggy Broche, toujours très agitée.
Oui Christelle, surtout sur la moitié est du pays puisque la perturbation s'évacue par l'est. Alors il reste encore pas mal de pluie hein, actuellement entre l'Alsace et les Alpes du Nord avec une limite pluie-neige à 1900 mètres et puis à l'arrière c'est très perturbé avec des averses localement orageuses entre les frontières du Nord, la Bourgogne et la région PACA, ainsi que la Corse où il y a déjà eu pas mal d'orages ce matin. Et puis en allant vers l'ouest, là les éclaircies sont plus nombreuses, des averses plus éparses à l'exception de la Bretagne. Entre la Bretagne et la Vendée, un ciel bien couvert avec des averses fréquentes encore attendues cet après-midi, localement orageuses. Et pour un temps plus calme, plus sec, plus lumineux, direction le golfe du Lion. Mais attention, il y a beaucoup de vent, des rafales jusqu'à 90 km/h. Et puis globalement, ça souffle sur l'ensemble du pays. Les températures, elles sont timide pour la saison. On est par endroits 4 à 5 degrés en dessous de la normale. La moyenne, normalement, c'est 19 au nord, 21 au sud. Cet après-midi, un petit 12 à Brest, 15 à Paris comme à Nancy, Dijon, Limoges, Toulouse, 18 à Lille, ainsi qu'à Bastia et 20 degrés à Nîmes.
Oui, c'est poussif. Ouais. Et demain, une nouvelle perturbation arrive?
Oui, cette fois par le nord-ouest. Donc du coup, elle donnera de bonnes pluies dès le matin entre la Bretagne et la Vendée. Sur le reste de la moitié ouest, un ciel souvent nuageux, quelques pluies faibles. Et puis la moitié est retrouve un temps plus calme, plus lumineux et même très beau près de la Méditerranée. Puis dans l'après-midi, cette perturbation, elle va gagner le sud-ouest également avec des pluies soutenues toujours au nord vers la Bretagne, orageuses dans le sud et ailleurs. Bien nuageux, humide, mais toujours plus lumineux sur les frontières du nord et de l'est avec beaucoup de vent sur la Corse, avec un ciel dégagé et les températures toujours aussi timides de 11 à 20 degrés demain.
Merci Peggy. À suivre le rappel des titres, ce sera à vous. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 3210.
RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et vous le savez, Jean Castex a annoncé lundi soir un durcissement des peines encourues par les agresseurs de policiers et de gendarmes sous la pression de syndicats de police en colère qui restent d'ailleurs circonspects quant à l'efficacité de ces mesures. Nous sommes déjà avec Bertrand. Bonjour, vous êtes gendarme?
Oui, enfin retraité gendarmerie.
Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez entendu hier soir?
Je le classerai comme d'habitude dans les effets d'annonce.
Eh bien, on va développer et parler ensemble de ces mesures. Christelle le rappelle des titres.
Un meurtrier en fuite dans les Cévennes. Il s'agit de l'employé d'une scierie au Plantier près d'Alès. Il a tué son patron et un collègue. Il est activement recherché dans la forêt par les gendarmes. Le GIGN est attendu sur place. 30 ans de prison ferme requis contre Nordal Le Landais pour le meurtre d'Arthur Noyer. C'est la peine maximale. Le Landais est dangereux, a dit l'avocate générale devant les assises de Savoie. Sa volonté de tuer saute aux yeux. Écoutez la première réaction de Cécile Noyer, la mère d'Arthur.
On a été entendus et vraiment son réquisitoire est à la hauteur de ce qu'on espérait. On ne tue pas par accident et on continue à vivre comme si de rien n'était. Je pense que tout le monde a ressenti notre peine et le désespoir et se dire qu'on ne reverra plus Arthur. Enfin, voilà, c'est un fait. Et toute cette semaine-là, on avait son portrait, ça nous faisait du bien. On se disait, ouais, t'es là Arthur. Voilà. De toute façon, il est toujours présent dans nos cœurs et sa personne ne pourra nous l'enlever. Voilà, donc j'en dirai pas plus.
Propos recueillis par Serge Pueyo, place désormais aux plaidoiries de la défense. À Avignon, le tireur présumé et son complice seront présentés cet après-midi à un juge d'instruction pour une mise en examen. Le principal suspect du meurtre du brigadier Éric Masson dit toujours qu'il n'a rien fait, mais il a été reconnu par un des collègues de la victime. Un hommage national sera rendu tout à l'heure aux policiers par Jean Castex. Première apparition de la reine Elisabeth depuis les obsèques de son mari, le prince Philippe. Comme le veut la tradition, elle prononce le discours du trône qui présente les priorités du gouvernement de Boris Johnson. Johnson pour l'année à venir. On l'avait laissée dans le noir du deuil. Elle arbore un ensemble bleu ciel.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Et nous sommes donc avec Bertrand, qui est gendarme retraité. Rebonjour Bertrand. Il semblerait que vous ne croyiez pas aux mesures annoncées hier soir comme peut-être du déjà vu ou du déjà entendu.
Disons qu'on aimerait bien y croire. Le problème, c'est qu'on nous habitue depuis de très, très, très nombreuses années à des effets d'annonce. On gesticule, on dit qu'on n'a pas la main qui tremble. C'est bien de le dire, mais le tout, ce serait que on joigne le geste à la parole et puis qu'on ait effectivement une justice qui réponde. La police répond, sauf que la justice derrière ne répond pas. Alors, on prend des décisions, on dit plus de rappel à la loi, on dit, mais on fait pas. Donc, c'est ça qui est désolant, quoi.
Je suis d'accord avec vous, mais comme ça a été dit hier, par définition, on ne peut pas vérifier sur ce qui s'est dit hier sera appliqué.